Actu SF, les podcasts.
Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre donc avec Théo Grosjean hein, autour de la BD. Voilà, une fois n'est pas coutume.
Merci pour l'accueil.
Et de rien. Ça nous fait bien plaisir. Alors, on était en train de se faire cette réflexion à l'instant que les Utopiales sont un festival réellement inclusif puisqu'on était en train de plaisanter relativement sur ces liens extrêmement ténus avec la science-fiction. Effectivement, on évoquait donc l'Empire du Pire, donc qui est, il m'expliquait quelque chose d'assez potache, de parodie aussi, ouais, de vie quotidienne sur la guerre des étoiles, mais qui a priori n'est pas non plus le cœur de ton œuvre.
Non, pas vraiment. Bah, en fait, l'Empire du Pire, c'était ma toute première BD. C'était, ouais, effectivement, c'est une parodie Star Wars, donc on va dire plutôt quelque chose de commercial, quoi. Qui était, en fait, j'avais fait quelques. Enfin, si, en fait, le seul lien entre guillemets que j'ai encore avec cette BD par rapport à ce que je fais maintenant, c'est que, en fait, je suis pas un très grand spécialiste de Star Wars, pour être honnête, même si j'aime bien la saga.
C'est pas une tare.
Et en fait, c'est assez étrange que j'ai fait une parodie de cette série parce que du coup, j'avais juste publié des épisodes en bande dessinée sur Internet à l'époque. En fait, j'avais fait un, c'était même pas en français, donc ça touchait plutôt un public américain. Et c'était en fait enfin, je revisitais. En fait, j'avais beaucoup aimé le personnage de Kylo Ren dans les derniers Star Wars. En fait, j'aimais bien l'idée d'un personnage qui souffre de la comparaison avec son père et enfin qui est Dark Vador du coup. C'est un petit spoil léger. et du coup, je sais pas. J'avais trouvé ça super. En fait, j'avais trouvé l'idée géniale en fait d'avoir ce personnage qui est pas du tout impressionnant au final dans la saga. Et il m'a beaucoup plu. Donc j'avais fait quelques épisodes sur le personnage que j'avais publié sur Internet. Et en fait, ça avait bien marché, ça avait été relayé sur des sites d'humour, de trucs comme ça, qui ne citent pas les auteurs et qui sont très incorrects. Mais voilà, c'était une première expérience, on va dire, de publication sur Internet. Et en fait, j'aimais bien le personnage, voilà, donc j'étais assez content de faire ça. Mais après, j'ai été contacté par mon premier éditeur pour en faire carrément un bouquin. Et sur le coup, j'étais super content parce qu'à l'époque, je me disais « Ouais, je vais être publié et tout, c'est génial. » Et en fait, en le faisant, j'avoue, c'était un peu chiant, quoi, parce que j'aime bien l'album affectueusement, mais je me rendais pas compte de ce que ça représentait de faire 100 pages d'une parodie Star Wars, sachant que je suis pas un professionnel non plus de l'univers. Donc voilà, c'est un album assez anecdotique finalement. Donc, mais effectivement, qui est plus ou moins le seul lien que j'ai avec les Utopiales, dans le sens où c'est de la SF, quoi.
À ceci près quand même qu'un prix BD Utopial 2019, ouais, pour Un gentil orque sauvage. Donc classé, comme on disait à l'instant, tu étais aussi étonné que ce soit classé jeunesse. Est-ce que je vous explique hein, vite fait ce qu'il y a dedans ou plutôt je vais quand même pas présenter ça à ta place comme tu veux.
Ah ok, bon bah je m'y colle alors.
Au choix.
Bah en gros c'est une bande dessinée, donc c'est ma première, c'est ma première BD. Bah j'étais tout seul sur cette BD là, parce que sur l'Empire du Pire je l'ai coécrit et co-dessiné, ça se dit, oui je pense, avec ma copine avec qui j'étais à l'école. Et donc là c'était ma première BD où j'étais un peu tout seul dessus et en gros ça raconte, ça peut se lire de deux façons. C'est à la fois un récit fantastique qui raconte la fuite de deux personnages et qui tentent de passer une frontière. Et donc en même temps, quand j'ai écrit le livre, c'était une période où je m'étais investi dans des associations de réfugiés à Lyon. Et en fait, donc j'avais beaucoup discuté avec des réfugiés de lyonnais. Et lyonnaise, et notamment une réfugiée syrienne avec qui on est resté un peu en contact. Je la vois un peu moins ces derniers temps, mais voilà, on est resté assez proche. Et en fait, ouais, j'avais trouvé ça en fait extrêmement intense, et aussi je trouvais qu'il y avait quelque chose de très de très entre guillemets épique dans le, enfin de très, c'est vraiment des odyssées quoi, dramatiques. Et du coup je me voyais pas du tout en faire un une bande dessinée comment dire documentaire, dans le sens où j'avais pas les connaissances nécessaires et puis je me sentais pas forcément légitime à aborder ce sujet parce que j'étais pas assez expérimenté quoi. Et du coup je m'en suis plus servi pour nourrir un récit plus fantastique. Donc voilà, c'est on va dire ça reprend un petit peu des points clés d'un voyage d'une personne réfugiée quoi. Donc c'est un peu un sous-texte, mais en fait la BD peut être lue comme un récit de fantasy classique de personnages qui fuient une menace en fait et qui sont déracinés de leur lieu de vie.
Oui, puis qui ont un vrai. Je vais le faire de manière un peu plus extérieure. Effectivement, c'est l'histoire d'un orque. Il y a des orques civilisés, ouais, des orques sauvages. Il y a des orques civilisés qui sont habillés, qui sont polis, qui disent bonjour à la dame. Et il y a des orques sauvages qui, eux, sont nus. Et il y a une invasion d'orques sauvages. Et le héros est un des premiers à repérer l'invasion et essayer de prévenir. Et en fait, les orques sauvages, en gros, génocident là où ils passent. Ouais. Et ils détruisent absolument tout. Et on se retrouve autour de ce personnage principal qui a un doute sur son statut de naissance. Ouais. Il est semi-sauvage, il ne connaît pas exactement toute l'histoire.
En fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il y a un doute sur qu'est-ce que c'est que le fait d'être sauvage, et en fait, même lui-même ne le sait pas, et en fait, on ne le saura jamais parce que j'avais prévu une suite mais qui ne sortira pas. Donc voilà.
L'histoire est complète quand même, hein, c'est pas frustrant.
C'est pas trop frustrant.
Et c'est vrai, quand on lit, moi-même, j'étais surpris quand même, effectivement, de la nomination jeunesse, et que ça se comprend à un niveau. Je pense qu'on peut le lire sans problème, qu'un enfant peut le lire, enfin, il n'y a pas de souci. Mais le lien, effectivement, sur la condition des réfugiés, sur l'acceptation, sur les politiques sécuritaires, il y a une modernité, il y a un troisième degré, on a un renvoi absolument constant à une vraie actu. Tout en étant, à côté de ça, il y a quand même beaucoup d'éléments comme le chien sauterelle qui se régénère, un rapport à la médecine, le médecin est quand même super rigolo. Il y a beaucoup de choses qui renvoient effectivement à une utilisation. Je ne dirais pas que c'est... Oui, on est vraiment très très en prise avec l'actualité,
ouais.
Clairement. Et donc c'était une manière de, comme tu disais, en fait, c'était une manière d'utiliser l'imaginaire pour finalement faire vivre le type d'expérience que pouvait vivre un réfugié multi-rejeté à chaque frontière. Sans finalement rentrer dans les détails ou sans avoir de données chiffrées ou être trop en contact, tu ne te sentais pas légitime à développer carrément une BD parce que, on va en parler après, hein, le spectateur on est totalement dans du réalisme pour le coup. Et on pourrait très bien imaginer entre les deux BD que ces thèmes-là soient traités sur un mode comme le spectateur.
Disons que c'est juste qu'en fait, c'est tellement. C'est pas forcément une question de légitimité, mais je pense que c'est une question tout simplement de. En fait, c'est très très technique, très complexe même au niveau des. Je voulais pas raconter n'importe quoi en fait. Et c'est hyper complexe même par exemple tout ce qui se passe quand on entre guillemets au niveau de la paperasse quand on passe d'un pays à un autre, c'est hyper complexe et c'est je me sentais pas du tout à la hauteur de raconter ce récit de manière réaliste. Et en fait aussi très très objectivement, j'adore la fantasy et donc ça me plaisait aussi de raconter ça. Puis en fait après le personnage, en gros le truc que j'ai essayé de faire, c'est de créer un perso qui en fait je me suis un peu mis à la place de ce personnage et d'imaginer si moi j'étais face, et j'ai essayé de créer quelque chose d'assez aussi ça permet de pas situer dans un pays, de pas évoquer crise politique ou crise migratoire, parce qu'en fait c'est pas vraiment le sujet, c'est plus le sentiment du déracinement qui va peut-être un jour tous nous concerner pour x ou y raison. Donc j'ai essayé de rester le plus neutre possible et je trouve que le thème de la fantaisie permet cette neutralité en fait dans le récit quoi. Mais effectivement oui, le thème de fond après c'est aussi qu'en fait j'ai toujours du mal. En fait, en fantasy, j'ai du mal quand on sent. Enfin, alors peut-être que des fois, je capte juste pas le sens du truc, le sens profond. Mais j'ai du mal quand c'est juste de l'autoréférence à de la fantasy et des codes qui sont répétés ad nauseam. Par exemple, il y a un récit de fantasy que j'adorais quand j'étais ado, qui s'appelait Magicien. Je sais pas si certains ou certaines l'ont lu dans leur jeunesse, et qui était un récit très efficace, qui fonctionnait bien. Et alors, si ça se trouve, il y a des choses auxquelles je suis passé à côté, mais en le relisant il n'y a pas très longtemps, je trouvais que c'était quand même. J'avais un peu de mal avec l'aspect très. Il y a beaucoup de choses qui. On sent que c'est quelqu'un qui adore la fantasy, qui adore les jeux de rôle, qui est vraiment à fond dans ces univers que j'adore aussi. Mais il y a quelque chose d'un petit peu vain parfois, il me semble, et c'est toujours un petit peu. Il y a des mecs qui viennent d'un autre univers. Il faut les. Enfin, c'est un peu. Voilà, je trouve que c'est un peu décontextualisé. Et mais faudra en discuter parce que si ça se trouve, il y aurait des spécialistes de cet auteur qui me diraient le contraire. Mais moi, j'ai eu ce sentiment-là en tout cas en le relisant. Et du coup, je me suis rendu compte que maintenant, j'ai du mal avec des récits qui sont complètement détachés du réel ou qui racontent rien du réel d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est ce que j'aime en fait. Donc voilà. C'était aussi que je m'inscrivais dans cette. J'avais envie de m'inscrire dans cette logique-là en fait, tout simplement.
Alors après, moi, en tant que mon métier, c'est un petit peu la littérature quand même. Par méthode et par école et techniquement, une chose que par exemple je me refuse toujours de faire parce que j'ai dû bien apprendre mon Barthes à l'époque, c'est que je refuse systématiquement de considérer qu'un auteur est dans son œuvre. Typiquement, quoi que j'analyse, le narrateur n'est pas l'auteur. Un auteur peut mentir de toute façon, peut se reconstruire de plein de manières. Et la biographie de quelqu'un n'est pas une donnée inintéressante. Je peux avoir des faisceaux dans un texte d'indices qui me disent peut-être que je devrais aller creuser là-bas. Mais en ce qui me concerne, c'est toujours un dernier aspect. Par contre, quand on lit les différentes œuvres d'un même auteur, de temps en temps, on a quand même l'impression d'avoir en creux des thèmes, des choses qui reviennent. Et on n'a pas évoqué l'homme le plus flippé du monde. Moi, il y a quand même quelque chose qui me marque ou que je retrouve un peu constamment dans le héros d'un gentil orque sauvage, dans l'homme le plus flippé du monde et en partie dans le spectateur. On sent quand même des lignes forces de rapport à l'autre, de peur en fait, pas forcément de peur, mais de rapport conflictuel aux autres, de difficulté à s'intégrer. On a un thème du père déficient qui est relativement constant et forcément, même si on se l'interdit et qu'on n'a pas envie d'exposer un auteur tout nu. Mais moi, je ne suis pas spécialement surpris quelque part qu'en tant qu'auteur, il y a quand même un ancrage réaliste et un ancrage d'un regard assez personnel sur le monde qui, je trouve, sourd dans ces œuvres-là. Ouais. Peut-être me trompe-je totalement. Il ne faut pas hésiter à me dire que je me plante.
C'est tout à fait... c'est beaucoup de choses inconscientes, en fait. Surtout quand on regarde, je pense, quand on a un regard sur la globalité d'une bibliographie, c'est souvent les thèmes qui en ressortent, c'est souvent plutôt de l'inconscient, parce que je pense qu'il y a peu d'auteurs ou d'autrices qui ont une vision, panoramique de toutes leurs œuvres à l'avance. Moi, je pense que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je réfléchis pas vraiment. En fait, souvent, c'est très spontané, en fait. Donc, les thèmes. Sont souvent juste des choses qui me semblent... En fait, je pense que j'aurais du mal à créer des personnages dont les émotions ne me touchent pas, parce qu'en fait, tout simplement, pour moi, c'est hyper important que le personnage, que les émotions qui sont véhiculées par les personnages semblent réalistes. Et du coup, je vais forcément le rapprocher de ma propre existence, quoi.
Et je me posais du coup la question du fait que l'homme le plus flippé du monde donc, soit au départ publié sur ton compte Instagram. Donc, est-ce que du coup, c'est un format où il y avait un rythme, une idée vient, elle est transposée, elle est transcrite en bande dessinée, elle est publiée directement. Est-ce qu'il y avait un côté comme ça d'instantané, parce qu'il y a un petit côté tranche de vie dedans au fur et à mesure. Et je me demandais justement, est-ce que ça, dans sa manière de bosser pour quelqu'un, parce qu'il y a forcément, je trouve, une manière... forcément différente de travailler quand on prépare un album ou quand au fur et à mesure on publie un rythme et qu'on maîtrise totalement la chose. Et est-ce que ça fait partie de ça ou cette idée de tranche de vie, or quelque chose t'affecte ou une expérience te donne une idée, tu la transcris et tu la publies?
C'est un procédé c'est toujours difficile de théoriser le truc. C'est tellement simple en fait que du coup c'est vraiment juste un. Moi je sais que sur l'homme le plus fait du monde particulièrement, c'était pas du tout réfléchi. En fait c'était vraiment purement spontané. Déjà c'est un exercice qui est très rodé dans la BD. Il y a déjà beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ont utilisé ce procédé-là d'écriture. Le seul truc que ça rajoutait, parce que moi quand j'ai commencé L'homme le plus fait du monde, je pense le lien qu'il y a vraiment avec, qui en fait, un, qui dit le différencie par exemple d'une série comme, je sais pas, Les Notes de Boulet par exemple, ou d'autres séries qui ont été publiées sur Internet, c'est peut-être que c'était publié justement sur Instagram, qui est un réseau qui à l'époque venait de connaître une mise à jour qui permettait le slide, qui permettait d'avoir plusieurs cases à la suite, donc qui permettait de faire de la BD de manière plus évidente en fait qu'avant. Du coup, je pense que en fait, ça m'a... alors, je ne sais pas si je réponds très bien à ta question, je suis désolé. Je ne sais pas où je suis en train de m'embarquer. Mais... et en fait, du coup, oui, je pense que ce format-là sur Instagram, en gros, ça a défini un petit peu le format et aussi ça a défini le rapport, l'interactivité est un peu différente de celle d'un blog, je pense, parce que c'est beaucoup plus instantané. Il y a un système de partage beaucoup plus sophistiqué vu que c'est une plateforme qui a été pensée pour la viralité. Et du coup, ça, je pense que ça, y a quelque chose de beaucoup plus... voilà, ça, par exemple, ça touche une communauté de personnes qui ne lit pas forcément de la BD, qui n'est pas forcément... voilà, qui n'est pas forcément dans la... Parce que le blog BD, ça restait quand même une niche, même si c'était une grosse niche, on va dire. Et en fait, je pense que... Alors, je me suis perdu là, dans ma réflexion. C'était quoi déjà la question?
Plus précisément, c'était à quel rythme tu publiais des choses sur Instagram?
Oui, voilà. Ah, oui. Du coup, le lien, c'est que, en fait, voilà, il y a ce truc de... En fait, il y a aussi le truc un peu...
Il faut le nourrir en théorie.
Terrible d'Instagram, c'est qu'il faut nourrir tout le temps la bête pour permettre de rester en vie sur le réseau et de voilà, donc c'est assez terrifiant comme principe. Mais disons que ouais, ça m'a obligé à une certaine régularité et en fait c'est un peu à la fois le côté intéressant et désagréable d'Instagram, c'est que c'est très instantané en fait, donc il y a beaucoup de réactions directes, donc c'est des espèces de shots de dopamine hyper intenses quoi, quand on publie une publication, même si on essaie de donner l'impression qu'on est détaché, c'est pas possible. Et du coup, ça influence petit à petit, un petit peu, je pense même inconsciemment un peu, ça va influencer, par exemple, pour prendre un exemple concret, si je sens qu'une histoire... a plu ou qu'un thème a plu, bah forcément le lien dans mon cerveau va se faire et je vais même inconsciemment partir dans cette direction pour d'autres épisodes, etc. Donc en fait ça modifie un peu les thèmes, c'est ce qui peut être un petit peu dangereux parce qu'il faut quand même rester assez reculé par rapport à ça pour pas juste satisfaire... juste en gros optimiser on va dire ses likes, etc. Mais en fait, voilà, c'est aussi intéressant parce que ça oblige à tenir une espèce de ligne. Et en fait, ce que j'ai l'impression que la façon dont je raconte des histoires, c'est modifié en fonction de. En fait, c'est comme un test permanent parce qu'en fait, quand on écrit une BD, c'est sur un an souvent ou deux ans ou plus même parfois. Et du coup, on n'a pas de. En fait, on est dans le vide. Il n'y a que l'éditeur ou l'éditrice qui nous conseille. Des choses, mais c'est une personne, quoi. Donc c'est vraiment. Puis souvent, moi, je sais que souvent mes éditeurs me disent pas grand-chose, en fait. Enfin, me disent toujours que ça leur semble ok, quoi, si je fais ce que je fais. Et du coup, là, il y a vraiment ce truc-là de en permanence. En fait, à chaque épisode, on peut remettre en question notre façon de nous comporter, de dessiner et tout. Je pense que c'était déjà vrai avec les blogs, mais là avec Instagram, je pense que c'est ce qui a donné cette particularité à la série.
Et donc ça a un côté à la fois double tranchant, mais en même temps formateur, et puis ça donne quand même une visibilité.
Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'était qu'en fait, je me rendais compte, par exemple, en dédicace, que beaucoup de personnes qui venaient à ma dédicace, c'était des gens qui ne lisaient pas du tout de BD, qui ne s'intéressaient même pas spécialement à la BD, même pas à la littérature en général. Mais qui avait été touché par un épisode ou par la bande dessinée en général. Et ça, je trouve ça très cool parce que du coup, ça sort un petit peu parfois d'un effet qui n'est pas désagréable d'ailleurs du tout, mais d'entre-soi un petit peu dans le milieu où c'est un peu fordiste la BD. Les gens qui lisent de la BD achètent de la BD et les gens qui font de la BD, enfin, voilà, c'est un cercle qui est très cool parce que c'est super d'avoir des avis de professionnels du milieu. Mais là, c'est vraiment agréable, je trouve, de percer un peu le sas de la bulle.
Et c'est de BD. Par ça que tu as pu accéder moyen à la publication par album? Ou c'était déjà ou dès le départ
non, j'avais déjà publié Le Gentil Sauvage avant, ouais. Donc du coup c'était
ça s'est rajouté sur vraiment.
Ça s'est rajouté en plus, ouais. Et en fait c'était pas du tout censé être mon projet principal à la base. J'avais pas du tout réfléchi ça comme un, c'était pas un business plan quoi. Je m'étais juste dit je vais publier une dizaine d'épisodes et en fait on va voir ce que ça donne, et puis parce qu'en fait juste j'avais eu des, enfin je suis anxieux depuis très très longtemps et je m'étais toujours dit que ça pouvait être un truc vraiment central dans mon travail parce que je savais de quoi je parlais entre guillemets, et je voulais de toute façon tester, et vu qu'il y avait, en fait c'est tombé vraiment par hasard avec ce truc des slides, c'était quelques mois après cette mise à jour, d'autres personnes commençaient à faire de la BD sur Instagram, ça me donnait envie. Je trouvais que ça s'adaptait bien. Et en fait, encore une fois, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est les gens qui lisent la BD qui ont aussi porté le projet dans le sens où ça m'a donné la motivation, l'envie de continuer. Et c'est devenu quasiment mon travail, mon principal. Ça n'a jamais été mon travail. Enfin, c'est pas ce sur quoi je passe le plus de temps, mais ça a pris beaucoup d'ampleur dans ma vie, quoi.
Et du coup, le spectateur, parce que vous parliez justement à l'instant du temps qu'on mettait, éventuellement du temps, ça pouvait être extrêmement long, 6 mois, 2 ans pour faire une BD. du coup, pour avoir un ordre d'idée, pour un gentil orque sauvage, du coup, ça a été combien de temps de préparation?
Le gentil orque sauvage, c'est fait assez rapidement, ce qui est terrible d'ailleurs, parce que c'était vraiment violent physiquement. Mais ça s'est fait en 7-8 mois, le livre, parce que je ne sais pas pourquoi je me suis mis cette espèce de... j'étais au tout début de ma carrière entre guillemets d'auteur, et du coup j'étais plein de motivation et du coup j'ai commencé en fait à faire deux planches, je crois que je faisais presque deux planches par jour, et c'était en tradi, donc en fait j'allais assez vite parce que en fait en tradi pour moi c'est un peu plus rapide. Le tradi c'est quand on dessine pas sur tablette ou sur ordinateur. Et pour moi, c'était un peu plus rapide parce que ça me permettait de ne pas zoomer, pour être précis. Quand on travaille sur ordinateur, c'est très vite on est obsédé par les détails, des choses que les gens ne verront probablement pas ou peu. Et donc, ça prend toujours beaucoup plus de temps. Et donc là, j'enchaînais des planches A4, des A4 vraiment comme ça, je dessinais. Et en fait, c'était une expérience très hypnotisante en fait, où j'étais vraiment dans le truc comme ça. Et souvent, je travaillais beaucoup trop, je prenais pas de week-end, donc c'était assez infernal comme rythme. Et après avoir fait Le Gentil Orque Sauvage, je me suis dit, je ne travaillerai plus comme ça du tout. Et donc, ça a été assez rapide, mais en réalité, si je l'avais écrit maintenant, ça m'aurait pris plus de temps, parce que je travaille beaucoup moins maintenant.
C'est bien de trouver un rythme pour durer, hein, c'est pas une mauvaise idée. Et du coup, le spectateur?
Et du coup, en fait, ça a duré 2 ans pour le coup, mais parce qu'en fait, j'avais du coup l'homme le plus flippé du monde en même temps que je dessinais en parallèle. Donc, j'ai un peu plus pris mon temps, et puis en fait, j'ai beaucoup redessiné des planches, enlevé des planches, mis des nouvelles planches. Ça a été un peu un puzzle, quoi. En fait, je l'ai écrit sur les 3 livres, j'ai eu 3 types de façons d'écrire différentes. Sur Le Gentil Orque Sauvage, j'ai tout storyboardé, enfin, c'est-à-dire j'ai fait plein de petits dessins préparatoires de la BD qui en gros sont lisibles tels quels par une personne qui n'a pas peur de regarder des dessins assez laids et l'écriture un peu mal faite. Et donc j'ai tout écrit à l'avance, et j'ai un peu travaillé le scénario comme un scénario en essayant de me remémorer un peu mes cours de scénario de l'école. De mon école d'art dans laquelle j'avais appris un petit peu ça. Et pour flipper, c'est vraiment de l'impro dans le sens où c'est un peu au jour le jour. Si j'ai une idée, je la note sur mon téléphone et ensuite je publie l'épisode dans la semaine. Alors j'écris et je publie l'épisode dans la semaine. Et sur Le Spectateur, en fait, j'ai procédé à un autre procédé d'écriture que je trouve très agréable et que je conseille souvent d'ailleurs pour les personnes qui ont des blocages d'écriture, c'est qu'en fait je me suis concentré sur quelques scènes à l'avance, souvent inspiré de souvenirs marquants, de souvenirs que j'avais en fait. Alors c'est pas du tout de l'autobio, parce que c'est plus de l'autofiction on va dire, mais il y a des souvenirs dispersés un peu cachés dans la bande dessinée qui sont des vrais souvenirs que j'ai beaucoup travaillé, où j'ai passé beaucoup de temps dessus, et j'ai vraiment réfléchi la mise en scène, mais sans me soucier de l'histoire en général, si ce n'est que je savais que c'était le même personnage qui, et donc c'était à plusieurs moments de sa vie différents. Donc il y avait un souvenir qui était dans l'enfance, un souvenir qui était dans la, on va dire, la jeune adolescence, 12-13 ans, et un souvenir beaucoup plus tard, vers 16-17 ans. Et ensuite, après avoir bien chiadé ces moments-là, à tel point que je me suis dit, j'ai tellement chiadé que je ne pourrais pas les enlever de l'album parce que j'ai passé trop de temps dessus. Et du coup, en fait, j'ai relié ensuite ces souvenirs un petit peu entre eux en racontant une histoire fictive.
Voilà. Ils y sont effectivement les moments.
Ouais,
oui,
ouais.
Ça va. Oui. Bon, c'est jamais, ça arrive hein, de les chialer tellement que finalement on les enlève.
Non, je les ai pas enlevés parce que c'est un peu les points centraux. En fait, même si c'est pas forcément. Au contraire, c'est des moments de transition dans lesquels le personnage va changer de. Enfin, sa vie va changer à cause de ces moments-là. Quoi.
Oh, ça me fait penser qu'on n'a pas dit. Alors, le spectateur. Pour ceux qui n'auraient pas lu, le spectateur, c'est une expérience quand même. C'est une bande dessinée qui est vue en vue subjective, en fait. Hein, on commence par naître avec le personnage. Hein, c'est quand même une entrée dans le récit qui est assez géniale pour le coup. Et on va traverser l'esprit d'un personnage, un personnage qui est muet, qui souffre peut-être de quelque chose. C'est jamais précisé particulièrement. On a des adultes qui donnent leur avis sur lui. On sait juste qu'il est muet. Mais on ne sait pas s'il refuse de parler, s'il est autiste, s'il est, ce n'est jamais spécialement dit. Beaucoup de gens ont un avis sur la question, mais on n'a pas non plus accès, ni nous ni les autres n'avons accès finalement aux pensées du personnage.
Tout à fait.
On le voit uniquement en acte, à travers ses propres yeux. On retrouve donc des thèmes qui traversent déjà le reste. On ne sait pas si lui est anxieux. Mais en tout cas, il a de quoi, vu la vie qu'il traverse. On est aussi sur un contexte absolument réaliste. On a une critique des institutions. Il y a, comme dans l'autre, des parents déficients. Il y a des problèmes de tolérance, des problèmes d'intégration. Il y a un rapport à l'art aussi, qui arrive très clairement, et sur les décalages entre l'interprétation de sa propre œuvre et celle des autres. Et évidemment, on sent, surtout quand on a lu l'ensemble et qu'on entend, il y a quand même aussi une mise en abîme de la manière dont on va transposer sa propre existence en art.
Ouais, un petit peu. Ouais.
En mélangeant d'ailleurs, hein, voilà, les radios qui deviennent une partie de son art. Et, on a toute cette réflexion au fur et à mesure. On sent forcément par rapport aux autres le fait que ça, comme tu décris, ça a été fait beaucoup plus vite et ça sur beaucoup plus longtemps.
Ouais.
Il y a quand même un côté effectivement plus construit, plus ambitieux aussi de celui-là.
Ouais.
Plus perso, comme je disais tout à l'heure, bêtement, c'est mon préféré.
Ah bah merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Non, c'est vraiment celui-là une expérience. Et du coup, je me pose la question de et après. C'est-à-dire que là, c'est l'endroit où tu en es actuellement.
Ouais.
Hein, et il y a vraiment un côté expérimental de la chose qui, je trouve, est très bien mené jusqu'au bout.
Ouais, c'est gentil,
ça fonctionne bien. Je trouve qu'il y a plein de. C'est assez. Parfois, on peut être repoussé de manière. Quand ce sont des expériences directes qui sont à la même période que soi, on peut avoir des a priori, des représentations de sa propre expérience qui permettent de rejeter quelque chose comme si quelqu'un nous énervait. C'est toujours le problème de coller au réel d'une manière ou d'une autre. Comme je disais tout à l'heure, le décalage par la fantasy permet de se permettre beaucoup de choses et de parler à beaucoup plus de gens puisqu'on n'a pas le rapport direct à une subjectivité ou à quelque chose auquel on s'identifie directement. Donc là, c'est fait. Et du coup, par la suite, je me pose la question de ce qui vient après maintenant.
D'accord, ok. Je suis assez, comme je disais tout à l'heure, c'est assez spontané souvent. Là, en ce moment, je fais un truc qui n'a rien à voir, c'est que je travaille sur une BD qui est prépubliée dans le journal de Spirou depuis 2 ans et demi, qui s'appelle Elliot au collège. Donc là, ça revient un peu plus dans ma zone de confort, on va dire. dans le sens où ça, c'est un petit peu dans l'esprit de l'homme le fait du monde, mais quand même beaucoup plus abouti, je pense, enfin selon moi, parce que c'est plus travaillé, c'est plus, je passe plus de temps sur les planches, et c'est moins voilà, c'est moins spontané, on va dire, mais c'est ça gagne dans d'autres voilà. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est très anxieux et qui arrive au collège et il y a une espèce, donc c'est beaucoup, c'est une BD jeunesse hein, pour préciser, donc c'est plus c'est à mettre entre toutes les mains. Et en fait son anxiété est métaphorisée par une espèce de boule, un peu comme une boule d'angoisse qui le suit et le démoralise un peu partout où il va dans le collège, qui lui prédit les pires événements pour la suite. Et en fait la petite subtilité par rapport à l'homme le fait du monde, c'est qu'en fait donc c'est un petit peu plus fantaisiste, on va dire, et puis en fait je voulais que ça soit un peu plus positif aussi, peut-être, parce que ça s'adresse à des enfants, donc je voulais que ça soit plus... pas que ce soit pas un truc qui leur dise « Vous allez finir dépressif et mal dans votre vie. »
C'est gentil, parce que mon fils te lit, donc c'est sympa.
Voilà. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir un personnage... Mais je pense que c'est un truc vrai aussi. Donc, en gros, le personnage, comme il est très anxieux, bah, en fait, il a comme un super pouvoir qui est que... Une fois qu'il est rentré en empathie avec une personne, il peut voir si cette personne en a une, son propre monstre, entre guillemets, qui est une sorte de métaphore des émotions, quoi. Et du coup, ça permet de... En fait, c'est une espèce de... Ça devient, à la fin du tome 1... Bon, je suis en train de raconter toute l'histoire, alors que c'est même pas sorti, mais bon. À la fin du tome 1, le personnage devient... Enfin, il y a une transition où le personnage devient un petit peu comme un espèce de... d'enquêteur, entre guillemets, quoi, où il va essayer de comprendre, enfin de voilà, ça devient un peu un don, on va dire, et en même temps aussi une source de conflit avec les autres, voilà. Donc c'est j'essaie de faire des allers-retours entre le fait que ça soit à la fois un peu quelque chose qui le fait vraiment souffrir, vraiment sincèrement dans sa vie, c'est pas juste un truc, voilà, c'est pas juste une usine à gags en permanence, et c'est aussi un truc qui, voilà, qui lui permet de créer du lien avec les autres et tout. Donc voilà, j'essaie de réfléchir, et c'est ça qui est vachement intéressant avec la BD jeunesse, c'est qu'il faut, parce que souvent ça c'est un truc que les auteurs et autrices, des fois j'écoute des podcasts sur ça et il dit souvent, oui, il ne faut pas prendre les enfants pour des cons parce qu'on peut tout leur raconter et tout. Je suis d'accord. Mais en même temps, je pense qu'il faut vraiment, il y a vraiment quand même un vrai travail de réadaptation parce qu'on ne peut pas dire les choses n'importe comment. Et c'est très important de trouver en fait, le moyen de les intéresser, de trouver des petits trucs qui, je sais pas, qui vont les attraper dans la lecture et tout. Et c'est extrêmement difficile, je trouve, de résumer. En fait, souvent, moi, quand j'ai une idée, je ne sais pas du tout résumer dans ma tête. Et il faut arriver à trouver un moyen de vraiment être plus simple, sans être simpliste, forcément. Mais en fait, c'est un exercice très intéressant en bande dessinée, quoi, je trouve, à pratiquer.
Et en tant qu'auteur flippé, si je peux le dire comme ça, la différence qu'il peut y avoir entre avoir une expérience d'un côté où tu as un retour direct sur le moindre, des projets comme ça où pendant très longtemps tu vas être tout seul à vraiment développer ton projet et attendre la fin. Et je me demandais, dans le journal de Spirou, ça se passe comment au niveau des retours? C'est-à-dire, quel type de retour tu as au fur et à mesure de la sérialisation et comment ça affecte la suite?
En fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que Morgane, le rédac-chef de Spirou, m'avait contacté en fait parce que finalement l'expérience que j'ai de ma pré-publication de Flipper sur Instagram ressemble beaucoup en fait à ce qui se pratique dans le journal, parce qu'en fait c'est très différent dans les faits, mais en fait c'est de la planche à chute, tout simplement. Donc un exercice qui est, on va dire, pour être un petit peu boudé aujourd'hui, parce que c'est un peu restrictif, et puis c'est un exercice qui était très lié en fait justement à la publication en journal, et du coup qui a pas forcément beaucoup de... Enfin, moi je trouve qu'il a encore beaucoup de sens aujourd'hui, mais qui c'est parfois difficile de trouver du sens aujourd'hui dans la planche à chute. Et du coup en fait moi je le faisais parce que le format Instagram m'y obligeait, parce qu'en fait j'ai toujours pensé que sur Instagram c'était une mauvaise idée de faire une histoire qui se suivait journalièrement. C'est possible, hein, faut essayer, mais c'est risqué, quoi, je pense, parce qu'en fait il y a tellement un flux permanent que déjà pour juste parce que par exemple sur un blog c'était possible parce qu'en fait les personnes qui suivaient un blog savaient qu'ils allaient avoir la suite de ce blog là, ils allaient sur ce blog pour ça. Là c'est vraiment un flux, c'est l'épisode il est perdu dans le flux, parfois on va jamais voir à cause de l'algorithme, on ne verra jamais un épisode, donc si on loupe un épisode et qu'il y avait un truc important qui se passait, c'était pas possible. Donc en fait pour moi c'est très compliqué de faire un truc qui suit, c'est pas impossible, mais je pense que c'est juste les outils dont qu'on a à disposition sur ces réseaux infernaux que sont Instagram et tout ça ne permettent pas trop ça. Et donc, en fait, finalement, d'une certaine façon, ça fait revenir le strip et la planche à chute. Et ça, je trouve ça super bien parce que j'adore cet exercice. Et donc, ça pour dire que Morgan m'avait contacté, je pense, par rapport à ça, parce qu'en fait, ça correspondait un petit peu à l'esprit du journal. Et en fait, au niveau de comment ça se passe, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de retours, pour être honnête. En fait, c'est parce que je pense qu'à une époque, c'était le cas, parce qu'il y avait des forums. Déjà, c'était l'époque des forums. Maintenant, il y a quand même peu de gens qui vont sur des forums commenter des épisodes de Spirou, à part quelques grands fans de Spirou qui sont pas toujours tendres avec les séries d'ailleurs mais ça c'est une voilà. Et voilà, donc en fait c'est très beaucoup plus comment dire c'est, en fait ça ressemble plus à de la publication moi je en tout cas j'ai pas le sentiment que c'est vraiment en fait c'est plus fictif dans le sens où c'est juste agréable de se dire que toutes les semaines les gens lisent la planche. Moi je trouve ça juste psychologiquement agréable de se dire que toutes les semaines il y a un enfant qui ou un adulte ou un ado qui lit la BD dans le journal, et je trouve ça vraiment satisfaisant quoi. Et sinon en fait ouais, je suis pas là depuis non plus très très longtemps, donc je me rends pas trop compte, mais voilà, finalement c'est assez ça se ressent pas trop, honnêtement, le côté.
Et ça affecte pas spécialement la manière dont tu travailles, du coup.
Seulement le format, du coup, ouais. qui est. Si, parce que quand même, si, dans le sens où à chaque planche, j'essaye quand même que ça soit. Là, en ce moment, j'ai un fil rouge. Donc c'est Elliot qui connaît un succès inattendu sur TikTok, en gros, le scénario du tome 2. Et en fait, il vient se greffer à ça plein de petits scénarios. Pour pas justement que ça soit trop linéaire. Et en fait, en gros, quand je publie les planches, j'essaye toujours, d'une façon un peu subtile, ça c'est vachement dur d'ailleurs, de résumer, mais il faut pas que ça se sente non plus, enfin il faut pas que ça fasse genre « Ah, alors Elliot, comme le jour dernier, tu avais fait une vidéo qui a fait 300 000 vues, et maintenant, alors ça se passe comment ?» Donc en gros, il faut éviter ce genre de truc-là, et subtilement essayer de faire en sorte que le lecteur ou l'lectrice qui débarque ne soit pas perdu complètement en lisant l'épisode, mais en même temps que ça puisse se lire d'une traite. Donc voilà, c'est le seul truc qui change.
Donc je vais revenir avec ma autre question.
Ouais.
Elliot, c'est le projet actuel.
Ouais.
C'est qui te prend tout ton temps?
Ça prend quasiment tout mon temps. Ouais.
Et il y a une idée d'après? Il y a volonté de revenir à des projets?
J'ai une autre BD, mais que je viens de finir, donc je ne suis plus dedans, mais qui est une BD que j'ai pré-publiée enfin, en partie sur Instagram et qui parle de... plus enfin qui est autobiographique et qui parle plus d'amour, et c'est une BD qui est on va dire que enfin qui est on va dire dans la continuité de L'homme fait du monde, c'est presque une suite entre guillemets, même si c'est un peu différent dans la forme. Et cette BD là est publiée aux éditions Exemplaires, qui est une maison d'édition un petit peu alternative dont vous avez peut-être un petit peu entendu parler. Permet une rémunération plus juste des auteurs et des autrices qui travaillent au sein de cette maison, et aussi un meilleur contrôle sur son travail. Donc en fait c'était un projet que j'avais vraiment pensé pour cette plateforme là qui m'intéresse beaucoup, donc voilà. Et ça passe par un sorte de crowdfunding, mais c'est quand même une maison d'édition, et en gros on s'occupe pas des trucs chiants des crowdfunding, genre faire des paquets, écrire des trucs, des noms sur les lettres et tout. Donc c'est très agréable. Et en plus, voilà, c'est super parce que c'est aussi très... il y a toute une bande d'auteurs et d'autrices qui est très, très sympa, qui participe à ça. Et le projet en lui-même, c'est un projet, voilà, encore une fois, assez zone de confort, même si, on va dire, un peu, qui m'a un petit peu mis en, enfin, qui m'a un peu stressé dans le sens où ça parle d'un sujet qui est très premier degré, quoi. Alors que pour l'instant, c'est souvent l'échappatoire de l'humour avec l'homme le feu du monde. Là, c'est un peu plus, même s'il y a de l'humour dans l'album, c'est un petit peu plus. Voilà, il y a un peu plus de, comment dire, de je sais pas comment exprimer ça, mais c'est j'essaie d'être un peu plus, d'être un peu plus sincère, de vraiment être au plus proche des émotions que j'ai ressenties à ce moment-là. Et en fait, ouais, c'est aussi un sujet très bateau, donc un peu risqué, dur de faire un truc nouveau là, avec ça. Et voilà, je sais pas si j'en parle ou si c'est trop, si un peu tard, je sais pas.
Non, je crois qu'on peut encore en parler. Il nous reste 20 minutes. Après, je pense que je vais laisser laissera la possibilité aux gens de poser des questions. Mais moi, j'ai bien envie d'en entendre parler.
Bah, en gros, l'idée, c'était de. Parce qu'en fait, je suis un gros fan de. J'aime beaucoup les comédies romantiques. Et j'aime trop les trucs romantiques, en fait, depuis toujours. Et en fait, le seul truc qui me manquait un petit peu, même si ça a été fait par la suite, maintenant il y a pas mal de trucs qui l'ont fait, mais c'était d'avoir une histoire qui raconte. En fait, souvent dans la plupart des comédies romantiques, je pense par exemple à, je sais pas, Coup de foudre à Notting Hill, que j'adore, qui est un super film, je trouve. Ça s'intéresse surtout à, on va dire, à la phase de séduction des personnages où en fait ils pour X ou Y raison, ils se retrouvent à être ensemble, à s'apprécier. Et c'est un jeu sur, voilà, sur la séduction, sur qu'est-ce que ça fait de ressentir ce sentiment-là et tout. Sur les premiers instants, en fait, en général. Même, je sais pas, par exemple, dans Titanic, finalement, les deux personnages, ça dure, je sais pas, ça a duré une semaine, quoi. Je sais pas.
Bah, lui, il se noie bien avant l'usure du couple.
Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est très cool, mais je trouve que c'est toujours un peu systématique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse toujours à cette phase-là. Et en fait, finalement, il y a cet effet de. Bah, en fait, à la fin, souvent, ils se mettent ensemble ou pas, mais souvent, ils se mettent ensemble. Et en fait, on est lâché comme ça et on sait pas comment ça se passe après. Et d'ailleurs, c'est une réflexion qu'avait l'auteur de Walking Dead, rien à voir pour le coup, mais sur dans le premier tome, je m'en souviens, ça m'avait vachement plu. Il avait fait un texte sur le tout premier tome à l'époque où j'avais commencé la série en BD, où il parlait du fait que ça l'avait toujours frustré dans les films de zombies, que les personnages, souvent, en fait, à la fin. On est dans le truc et tout, et en fait souvent à la fin ils arrivent à recréer une micro-société où ils arrivent à vivre plus ou moins avec les zombies, quoi, dans certains films en tout cas, et en fait ça s'arrête là, quoi. Alors que finalement, moi, c'est vrai que c'est toujours le truc qui me semble le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe après, quand ils ont instauré des règles, qu'en gros ils ont arrêté de fuir sans cesse des zombies, que c'est que de l'action et des jumpscares et des effets voilà. Qu'est-ce qui se passe après ça? Donc c'est le principe de Walking Dead, quoi, c'est de penser plus le truc comme un. Donc ça, c'est un peu rien à voir, mais dans le principe, c'est un peu pareil, c'est que qu'est-ce qui se passe après la fin de toutes les histoires d'amour? Et donc en fait, entre temps, ça a été fait pas mal de fois. Notamment, il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Normal People, qui parle d'amour d'une façon que je trouve vachement intéressante, qui est justement ça en fait ça saute des années, et c'est un couple de jeunes et puis de moins jeunes, donc après, et en fait ça raconte un peu, j'étais un peu dégoûté d'ailleurs quand je l'ai vu, parce que j'étais en train d'écrire la série et je me disais je vais faire la même chose et tout, enfin je vais faire ça, et en fait voilà, donc, comme d'hab, il y a toujours quelqu'un qui, mais de toute façon il y a sûrement plein d'autres trucs qui l'ont fait, mais bon, bref. Et en tout cas, c'est dans la forme, ça ressemblait vraiment à l'idée que j'avais de la BD. Même si en fait je l'ai beaucoup moins développé parce que faute de, c'est pas une série, donc voilà. Mais j'aime bien cette idée en fait d'avoir ce panel de moments où en fait comment le temps crée de l'usure sur les personnages et aussi crée des belles choses. Enfin voilà, c'est un peu bateau, mais c'est un peu ça qui me plaisait dans l'idée.
Bon. L'idée est sympa, effectivement, parce que le principe des comédies romantiques, enfin, celle que tu cites, hein, notamment, hein, on a le modèle quand Harry rencontre Sally, où effectivement, hein, ouais, toute la phase qu'on a, c'est de la rencontre à la déclaration. Ouais. avec énormément de manières de mettre en scène les atermoiements jusqu'à la déclaration, et c'est vrai que ça s'arrête absolument là. Ouais. Donc l'idée, bah, encore, on est dans un décalage sur le réalisme et sur la temporalité.
Tout à fait.
Ouais. Et on va aller voir un peu à long terme ce qui va se passer au fur et à mesure. Ça va sortir quand, ça ?
1er décembre.
1er décembre, ah oui, donc c'est bientôt.
Ouais, c'est bientôt. Là. J'ai été un peu en retard sur la fin de l'album. Mais
ça va, tant que ça sort avant Avatar, il y aura encore des gens pour avoir le temps. C'est bon, tout va bien.
C'est vrai que c'est vraiment le même public.
Absolument, non, mais exactement. On a envie de savoir ce qui se passe après sur la longueur. C'est exactement ça. Je me disais, il nous reste un peu de temps, vous avez envie de poser des questions ?
C'est toujours le problème quand on a un public de flipper. C'est les questions
ça.
En conférence, ça marche pas.
Ouais, en même temps, c'est vrai, ils sont venus de quoi. Ouais, bah oui. Ouais. Oui, ça arrive.
Merci. Bah déjà, bonjour.
Bonjour.
Et du coup, je voulais savoir, en tant que personne anxieuse, comment est-ce que tu vis un petit peu les retours sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu t'es imposé des limites, des moments où tu réponds pas, des horaires, ce genre de choses ?
Ouais, alors, je le vis plus ou moins bien, pour être honnête. Mais j'ai fait beaucoup de choix assez rapidement, justement, de stratégie. En fait, au tout début, je répondais, comme souvent dans les comptes, quand on a bougé beaucoup de messages privés, en fait, beaucoup de messages privés, parce que, comme ça fait référence à des histoires un peu personnelles et très intimes, je pense que les gens se sentent plus on ressent l'envie de m'envoyer des messages privés, ce qui est compréhensible, mais évidemment c'est très compliqué à gérer parce qu'en fait je peux pas répondre et souvent je peux juste je suis pas formé pour ça, en fait, tout simplement, parce que des fois ça peut être des vraies questions qui sont parfois graves aussi. Et donc ce que je fais, c'est que je ne réponds plus aux messages depuis quelques temps. Parce que c'est vraiment impossible, même c'est devenu quasiment impossible, parce que si je voulais le faire bien, ça me prendrait vraiment beaucoup de temps, et je préfère ne pas le faire que le faire mal. Donc voilà. Et du coup, ça m'est déjà arrivé, par contre. Bah après, c'est en fait, honnêtement, c'est pas non plus forcément nécessaire, dans le sens où beaucoup des messages que je reçois, c'est pas forcément des messages qui nécessitent une réponse. Ça peut être quelqu'un qui m'envoie juste un message pour me dire qu'il a bien apprécié tel ou tel épisode. Mais sauf si vraiment... donc voilà, ça c'est pour la partie message. Après, sur la partie, on va dire, plus rapport au réseau et tout, j'avoue que je suis encore aujourd'hui pas très serein, je suis un peu stressé de dire un truc, de ne pas... Comment dire, déjà de perdre ce que j'ai gagné avec la série et tout, parce que en fait tout est éphémère sur internet et tout ça, voilà. Et donc c'est un peu stressant, et puis en plus c'est ce côté très instantané où je sais que quand je publie un truc, il y a dans les 10 minutes il va y avoir un certain nombre de commentaires, de réactions et tout, et c'est un peu stressant. Ce que je fais, moi, c'est que je ne regarde pas tout de suite les réactions. C'est un truc assez simple. Ça me permet déjà de ne pas passer 3000 ans sur mon tel dès que je publie un truc. Mais en plus, en fait, en gros, le lendemain, souvent je regarde un petit peu le soir ou le lendemain, et ça me permet de prendre un peu de recul. Et puis, en fait, il y a beaucoup de messages souvent, donc je peux les lire comme ça, à tête reposée, ou ne pas les lire si je ne me sens pas les lire, en fait. Il y a des posts, par exemple. En fait, je sais que, par exemple, il y a un truc qui est un peu compliqué, c'est que... les gens, alors c'est un truc complètement normal, mais en fait les gens sont très empathiques avec moi parce qu'ils ressentent la même chose que moi parfois, et donc souvent ils ont des conseils à me donner, des trucs, des idées à me donner, tout ça. Et en fait le truc, c'est que moi ce sujet je le connais super bien, en tout cas sur ce truc là j'ai beaucoup passé de temps à regarder des trucs et tout, donc souvent c'est des conseils que j'ai déjà lu dans certains trucs et tout, même si c'est toujours sympa il y a quelques trucs que, on va dire, nouveaux, mais souvent en fait ce qui peut être compliqué aussi, c'est de gérer parce qu'en fait les gens ont pas forcément comprennent pas forcément que c'est une série où j'ai un certain recul dessus, et c'est pas des trucs que je vis en les dessinant, quoi. Souvent c'est un petit peu c'est un petit peu plus ancien et tout, et donc en fait c'est super touchant en même temps, parce que c'est des gens qui veulent qui sont hyper impliqués. Et en même temps, c'est un peu dur. Des fois, je me sens un peu, j'ai l'impression de les arnaquer, quoi. Parce que, voilà, mais c'est un peu bizarre. Je ne saurais pas trop comment décrire ce sentiment. Donc, ça, c'est un truc que je gère plus ou moins bien. Mais en même temps, je trouve ça très touchant. En fait, c'est vraiment très ambivalent, en fait. C'est un mélange d'anxiété et d'être hyper touché par les réactions. Voilà.
Ok, on m'entend. Ok. Est-ce que c'est difficile de s'exposer et de raconter un peu sa vie, un peu dans les détails ou dans l'intimité, et ensuite d'être confronté à son public et d'être un peu l'impression d'être nu en fait devant. Ou est-ce que tu arrives à prendre le recul? Est-ce que ce que tu partages, c'est pas si intime que ça et il y a.
Alors en fait, ça c'est un truc qui est intéressant dans le sens où en fait moi je suis très anxieux, mais par contre j'ai pas beaucoup de pudeur sur mes émotions en tout cas, et je pense que c'est un truc qui m'a un peu sauvé entre guillemets dans ma vie, parce qu'en fait je sais que je parle tout le temps d'anxiété, même bien avant la série j'étais chiant en fait avec ça et je sais que même j'en parlais vraiment, je suis hyper, j'ai pas du tout de difficulté à en parler en fait. J'ai toujours été très, je trouve jamais mes mots, c'est terrible. Il y a un mot pour ça, mais j'ai toujours été très, bon c'est pas grave. Voilà, vous voyez quoi. ouais voilà tout ça. Voilà,
Volubile, c'était bien, très bien. Plus joli à l'oreille dans ceux que j'ai sortis.
Et du coup, c'est vrai que j'ai pas trop cette difficulté-là. Après, ça reste assez neutre. J'entre pas trop dans les détails en général. C'est des situations assez neutres et c'est un peu schématique en fait, en tout cas dans Flipper. C'est vrai que j'ai pas l'impression de. Enfin, j'ai juste. Moi personnellement ça me donne pas du tout l'impression que c'est quelque chose qui me met en danger entre guillemets, sauf les quelques rares fois où j'ai eu des messages de gens qui aiment pas l'idée que je partage ma vie comme ça, ce qui est très rare, mais ça arrive de temps en temps. Et c'est vrai que là d'un coup ça me fait un recul où j'ai l'impression que je suis en train de déballer ma vie et tout, et je sais pas, ça me fait une espèce de vertige comme ça. Mais c'est assez rare et ça passe, parce qu'en fait je me dis non mais de toute façon j'ai fait ça toute ma vie, je parle tout le temps de ça, donc tous les gens qui me connaissent un peu intimement ont entendu parler de ça depuis très longtemps, et c'est la seule façon que j'avais de me sentir mieux quand j'étais pas très bien avec ça, donc je me dis bah tant pis, je vais pas m'empêcher, enfin voilà, pour moi c'est juste normal en fait, c'est logique et je me prends pas trop de la tête avec ça pour le coup, mais ça peut être vraiment une question compliquée à gérer.
Bonjour.
Bonjour.
Récemment, il me semble que ta bande dessinée, L'homme le plus flippé du monde, a été adaptée en animation.
Oui.
Du coup, je me demandais qu'est-ce que ça faisait de travailler, de passer de seul devant sa planche avec potentiellement une équipe,
ouais,
et de voir ses dessins prendre vie. C'est quand même assez différent. Donc voilà.
Merci pour la question. C'est vraiment fou. Enfin, comme toute chose, c'est extrêmement incroyable au début. Puis après, on s'habitue un peu à tout. Donc, au début, c'est fou. Moi, je me souviens très bien de la première animation du perso. C'est le perso qui attend un covoiturage. Et la toute première anime, j'étais très ému parce que, en fait, c'est aussi. J'avais donné tout un tas de ce que j'ai co-réalisé la série avec un ami. Et j'ai écrit la série aussi. J'ai fait beaucoup de chara-design. Enfin, je me suis beaucoup impliqué sur la série. Et du coup, c'est vrai que c'était vraiment satisfaisant En fait, j'écris simplement des trucs très précisément et de vraiment voir une personne, des personnes en l'occurrence, qui s'occupent de minutieusement reprendre chaque détail que j'ai écrit dans le scénario. C'est assez fascinant, quoi. Donc oui, c'est génial. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ce qui manque un peu dans la BD, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de, dans mon expérience de l'anxiété, il y a beaucoup de choses qui passent par le son et l'image et le mouvement, pardon. et c'est tout ce qui est un peu subtil passe par le son et le mouvement. On va dire, je sais pas, ça peut être des petits tocs nerveux, enfin des tics nerveux plutôt, pardon. Voilà, comme ce que je suis en train de faire actuellement, par exemple. Des petites choses comme ça, ou genre la chaise qui on balance pendant toute une conférence parce qu'on, parce qu'on ne peut pas rester stable. Ce genre de petits trucs, c'est, je sais pas, ça m'intéressait beaucoup de le retranscrire en dessin animé, donc... Je trouve que ça amène vraiment un truc en plus pour le coup. Ça amène vraiment un truc en truc. Le sujet est vraiment plus, enfin mieux exploité avec du son. En fait, ça c'est faisable en bande dessinée, mais ça serait un peu compliqué de vraiment rentrer dans le détail de tous les petits mouvements. Faudrait avoir une temporalité beaucoup plus éclatée. Et par exemple, ça serait pas possible avec Instagram, qui justement oblige à condenser, parce que comme il y a que 10 images. Exploitable par poste, ça oblige à condenser et d'ailleurs même dans la BD souvent, enfin dans la version papier, je rajoute des moments de silence ou des petits mouvements de personnages et tout parce que je trouve qu'on perd quand même beaucoup en subtilité.
Bonjour,
bonjour.
C'est une petite question éditoriale là, sur l'Orque Sauvage qui est parfait tel qu'il est, mais est-ce qu'il y a eu est-ce que la colorisation a été envisagée à un moment ou pas, ou essayée ou...
Ouais, ça a été envisagé. Alors, moi, j'avais commencé à faire des... Bah, en fait, la première version que j'avais faite était colorisée sur 3-4 planches. Et en fait, avec mon éditeur, on s'est rendu compte que ça apportait pas grand-chose. Et puis, honnêtement, l'avance sur droit que j'ai eue n'était pas non plus incroyable. Donc, j'étais à l'économie, on va dire. Mais disons que voilà, ça a été envisagé et ça a été réenvisagé plus tard parce qu'en fait la BD devait être publiée en anglais aux éditions Nobro et en fait la condition c'était que ça soit recolorisé par quelqu'un d'autre et donc ils avaient fait des tests, moi j'étais assez content, puis finalement ça s'est pas fait. Je crois qu'en fait le directeur de Nobro a trouvé, enfin le directeur, je sais même pas qui ils sont vraiment, je pense que c'était le boss final de Nobro qui a considéré que c'était trop, enfin qui c'était pas adapté, parce que eux c'était pour leur section jeunesse, et c'est vrai qu'effectivement c'est un peu, il y a des scènes un peu dures, un peu violentes et tout, donc je comprends qu'il se soit dit que c'était peut-être un peu, c'était pas adapté en fait, donc voilà, ça s'est pas fait finalement, mais oui, après honnêtement, moi j'adore le noir et blanc et j'aime beaucoup, enfin je lis beaucoup de BD en noir et blanc, j'ai beaucoup d'albums, bon j'en ai moins maintenant parce que j'achète moins de BD, mais j'aimais bien avoir des albums en noir et blanc, même de classiques, du comics par exemple, ou de franco-belge, etc. Je trouve qu'il y a vraiment un truc dans le noir et blanc assez puissant et tout, donc ça me gêne pas du tout moi le noir et blanc comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très vendeur et... Et voilà, mais objectivement pour cette série, cet album, ça me semblait pas forcément hyper utile quoi. Et en plus, je suis assez nul en couleur, donc voilà, c'est pas mal.
Bonjour.
Bonjour.
Tu utilises beaucoup l'anxiété comme sujet de départ dans ton travail. Est-ce que tu serais intéressé de parler d'autres choses pour essayer de varier, même pour toi, de ne pas rester bloqué ou de, qu'on te donne une étiquette d'anxieux tout le temps?
Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs raisons au fait que j'en parle souvent. C'est déjà que, comme je disais tout à l'heure, j'essaie toujours de me mettre dans le personnage et du coup, vu que je suis un petit peu comme ça moi-même... en fait, c'est toujours un peu le truc que je... C'est toujours la personnalité que je donne à mes personnages de manière naturelle, en fait. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop de projets qui n'incluent pas ce sujet-là de manière plus ou moins directe. Après, dans le cas du spectateur, ça parle un peu d'autre chose que de l'anxiété, je pense. C'est un peu plus un sentiment de décalage avec la réalité ou de... le personnage n'est pas spécialement anxieux en fait. Il n'y a pas de moment où il est. On ne sait pas vraiment en fait. Donc, pour moi, c'est un album qui parle un peu d'autre chose. Ça parle plus du sentiment d'être hors du monde en fait, qui est plus ou moins lié dans le récit. Je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus générationnel, peut-être un peu plus générationnel. Je pense qu'il est lié au fait qu'on a, on a un flux permanent d'informations avec les réseaux, Internet, tout ça, qui fait qu'on va toujours se sentir un peu impuissant et spectateur de choses qui nous dépassent. Et donc, ça génère de l'anxiété, effectivement, mais c'est aussi un sentiment vraiment concret qui est d'ailleurs un peu, qui peut être un des symptômes de l'anxiété qu'on appelle, enfin qui est évoqué avec l'idée de déréalisation, tout ça. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment, c'est pas forcément le sujet du bouquin, en tout cas. Je sais que c'est souvent interprété comme ça dans les critiques que j'ai du livre et tout, ça me dérange pas. Mais c'est pas l'idée que j'avais forcément du livre. Donc,
Vraiment purement en tant que lecteur, hein, ouais. Moi effectivement j'ai pas trouvé. Je trouvais qu'il y avait même un gros décalage et il y a un effet du mutisme du personnage, parce qu'il y a quand même certains axes qui sont assez dramatiques par moment. Enfin, ouais. Le destin du père, le rapport, etc. à sa famille est quand même assez. Et il y a une espèce d'effet. Effectivement, il y a un sentiment d'impuissance qui est un peu constant. Mais on a cette impression-là, mais je trouve que c'est assez nié par le destin du personnage qui finalement trouve sa voix, trouve son moyen d'expression malgré tout ça. Je trouve qu'au contraire, ça apporte une espèce de sentiment de force et de résilience. Ah oui. Parce que finalement, le regard reste assez constant, le personnage progresse et il est face à quand même des drames et à des choses qui, de toute façon, pour un enfant ou même pas qu'un enfant, sont extrêmement dures. Et finalement, voilà, le personnage réussit à traverser ça sans que ça le dévie, sans que lui-même soit le réceptacle. Ouais. Et on a même beaucoup de personnages qui, au départ, sont des personnages assez menaçants quand ils sont enfants, avec un rapport assez ambigu. Et quand ils se retrouvent plus tard en tant que jeune adulte, il y a un rapport très, très apaisé et une acceptation de lui. Donc, moi, pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai décalage et qu'effectivement, le spectateur ne me frappe pas du tout comme étant comme creusant le même sillon.
C'est un petit peu l'idée que j'ai. Enfin, c'est un peu mon sentiment aussi. Après, en fait, comme le personnage est une espèce de réceptacle pour les émotions aussi du lecteur ou de la lectrice qui s'empare du récit, du coup, effectivement, on peut y mettre un peu ce qu'on veut, entre guillemets, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas vraiment ça. C'est plus un personnage qui est comme tout le temps, en fait, qui est incapable de réagir, en fait, qui est coincé dans son corps, entre guillemets, et dans sa réception du monde comme ça, voilà.
J'ai bien peur qu'il soit 18h. Vous pouvez retrouver Théo, si je ne me trompe pas, à la librairie, en séance de dédicace, tout de suite, maintenant. Voilà, il va vous suivre. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Excellente fin de festival. Merci.